Aujourd'hui, on va continuer dans l'étude du prophète Zacharie. C'est un des petits prophètes. Ils sont au nombre de 12, comme les disciples. Et on les appelle petits, non pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que le volume de leurs écrits, ce qu'on a dans la Bible, rapportant leurs prophéties, n'est pas aussi grand en volume que les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et Zacharie, en fait, c'est le plus grand, long des petits prophètes. Son livre comporte 14 chapitres, et c'est vraiment un message messianique. Il est clairement question de Jésus, Jésus-Christ. On dit que Agée, Zacharie et Malachi, suivant qu'on est italien ou pas, sont les trois prophètes post-exiliques. Ça veut simplement dire qu'ils sont arrivés après le retour de l'exil de Jérusalem, du peuple de Jérusalem, Juda, en Babylonie, à Babylone. On a étudié le prophète Agée et on a commencé l'étude du prophète Zacharie. Ils ont parlé à peu près à la même période. Agée encourageait le peuple à revenir. Ils s'étaient installés à Babylone. Ils ont passé 70 ans à Babylone. C'était une prophétie qu'on trouvait dans Jérémie. Et ça correspondait à une année pour chaque année où ils n'avaient pas respecté les décrets de Dieu, notamment pour le sabbat. Ils devaient prendre une année sabbatique tous les 7 années, laisser la terre se reposer. On sait que d'un point de vue agricole ou agronomique, c'est une très bonne chose. Ça permettait à la terre de reprendre de la force, des engrais, de se revitaliser. Et donc, pendant 490 ans, ils n'ont pas fait cela. Et Dieu leur a promis qu'il allait les forcer à prendre un sabbat. Et ce sabbat s'est passé en exil à Babylone. Ils se sont installés et ils ont pris goût à leur vie prospère à Babylone. Et lorsque Dieu leur a permis de retourner en parlant à Cyrus, un empereur perse, peu d'entre eux en fait ont eu le désir de revenir. Il n'y en a eu que 42 360. J'aime bien de préciser ces chiffres. Pourquoi ? Parce que ça montre que ce n'est pas des légendes. Il y a un décompte exact des personnes dans la Bible. C'est un récit historique. Donc il y a 42 360 personnes qui sont retournées sur des millions d'exilés qui étaient prospères à Babylone. On a vu que le nom de Zacharie et le nom de son père et de son grand-père, Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d'Ido, si on regarde le sens, ça veut dire « Dieu se rappelle et bénit au moment voulu par lui ». Les exilés qui sont retournés pour reconstruire la ville, le temple surtout, le temple, et en fait ils avaient repris la construction mais il y avait de l'opposition, ils avaient laissé tomber, et après les encouragements, les exhortations d'Agée à rentrer, c'est Zacharie qui prend le relais et qui leur dit de retourner à Dieu, le retourner à Dieu, de retourner au cœur de Dieu. Tout à l'heure, j'étais béni lorsque Tonio chante ce chant qu'on chante plusieurs fois. Seigneur, par la clarté de ton amour, couvre ce pays de ta grâce. C'est un chant qu'on peut chanter pour appeler le réveil sur la France. Je me souviens, j'ai fait des études bibliques au Canada et on avait eu une réunion de prière pour le réveil au Canada. Et ça avait commencé tôt dans la soirée, mais on s'était retrouvés vers 1h, 2h du matin, un cercle de 50 ou 60 personnes, on se tenait la main. On avait le président de cette école biblique qui était un Écossais d'origine, qui avait un très fort accent écossais. Et on a chanté à tue-tête ce chant. Reviens Seigneur, couvre ce pays de ta grâce. Est-ce que tout à l'heure, quand vous avez chanté, est-ce que vous avez pensé qu'on chantait ça pour la France ? De dire, Dieu, tu peux transformer le paysage, tu peux toucher les hommes politiques, tu peux toucher le président Macron, tu peux te révéler, et c'est ce qu'on aspire à cela. Et c'est Dieu qui dit à son peuple, « Revenez à moi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, ou le seigneur des armées, notre version dit ça, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Dieu est toujours là, c'est comme le père du fils prodigue, il lui laisse la liberté, il nous laisse la liberté de nous éloigner, de nous fourvoyer dans des choses qui ne sont pas bonnes, mais si nous revenons à lui, il est là, il revient à nous. Et donc, on a vu qu'il utilise, en une nuit, il a eu 8 visions ou 10, suivant comment on les décrit, on les divise. Mais il y avait la première vision qu'on a vue, c'était la vision des chevaux. La vision des chevaux, on a vu qu'il y avait plusieurs chevaux et il y avait un particulier, un ange de l'Éternel qui était sur un cheval rouge. Cheval rouge, ça parle de combat, de sang. Sans doute le sang, et on a rappelé que l'ange de l'Éternel, c'est une description de l'Ancien Testament pour parler de Jésus-Christ avant son incarnation. C'est une pré-incarnation de Jésus, c'est le Christ pré-incarné, est souvent référé comme étant l'ange de l'Éternel. On peut parler d'ange ou un ange de l'Éternel, mais quand il y a l'article défini le, l'apostrophe, c'est la description de Jésus, ça fait référence à Jésus-Christ. Et on a vu que cet homme était parmi son peuple, il était parmi les myrtes, c'est-à-dire les plantes qui poussent en Israël, et le peuple était au plus profond spirituellement, au plus profond émotionnellement, et même physiquement. Il y a un endroit où deux vallées se croisent entre près de Jérusalem, en bas de Jérusalem, et c'est là que on appelle ça des fois le trou ou le plus bas. Et donc on a vu que Jésus-Christ voulait encourager son peuple et il était présent au milieu d'eux. Et puis on a vu que, et on l'a rappelé souvent, que si vous n'avez pas prié ce matin parce que vous étiez pressé pour arriver à l'église à l'heure, Jésus a déjà prié pour vous. Jésus intercède pour nous. Il a une connexion Wi-Fi fantastique avec le Père et il sait ce dont nous avons besoin et il prie. Et là, c'est lui qui dit, en fait, c'est surprenant quand on lit rapidement, on passe à côté au verset 12 du chapitre 1 de Zacharie, il dit « Éternel maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans ?» C'est l'ange de l'Éternel, le Fils qui prie le Père. Donc nous pouvons être encouragés, non seulement Jésus est présent parmi nous, c'était son peuple, nous sommes son peuple aussi. Il n'en a pas fini avec Israël et Jérusalem, mais nous avons droit aussi à ses promesses et il est présent parmi nous et nous avons ses prières. Alléluia. Ce matin, j'ai reçu un message d'un notre pasteur qui a pris la suite de Chuck Smith, Brian Burdison, qui est à Chypre, pour une conférence sur le Moyen-Orient, qui regroupe des missionnaires en Turquie, en d'autres endroits comme ça. Et il a envoyé un mot sur Facebook demandant la prière parce qu'il s'est réveillé à 5h du matin avec une crève carabinée, comme on dit. Et il devait prêcher il y a une heure maintenant. Et il demandait la prière pour avoir la force de le faire. On est heureux de savoir que d'autres prient pour nous. Moi, je suis toujours très béni lorsque je comprends que vous me dites que, tiens, on a prié pour toi à tel moment. Et souvent, c'est un moment où on peut se souvenir, tiens, mais c'est vrai, il s'est passé quelque chose. Et c'est par la prière que ces choses interviennent. Et puis, il leur promet que Jérusalem, qui était en ruine, allait de nouveau être une cité glorieuse. Ma maison y sera reconstruite, on étendra le ruban à mesurer sur Jérusalem, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Et on a dit qu'en fait, là, ce sont les promesses qui nous encouragent. Et on a dit que cette première vision des chevaux, c'était quelque chose de fantastique, parce que ça nous assurait, on pouvait être réconforté, encouragé, plein de confiance, parce qu'on avait la présence de Jésus-Christ parmi nous, on avait ses prières et ses promesses. On va passer au chapitre 2 et on va regarder la vision des cornes et des forgerons. Alors c'est là qu'il y en a qui voient d'abord la vision des cornes et puis la vision des forgerons. Donc ça soit une prophétie ou deux, deuxième vision. Encore une fois, la vision, c'est quelque chose qui engage l'intelligence. Un rêve, on a des émotions. Le matin, on se réveille, on dit « Oh là là, j'ai eu un rêve terrible ». Là, c'est pendant la nuit, mais on pense qu'il était éveillé, qu'il pouvait voir et décrire et parler. Et avant de lire, on va demander au Seigneur de bénir ce temps. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce qu'elle est d'actualité, elle est éternelle. On sait que l'herbe et les fleurs sécheront, mais ta parole demeure pour toujours Seigneur. Qu'il est bon de la lire, qu'il est bon de la méditer, d'y réfléchir, de la garder comme un trésor dans nos cœurs. Aide-nous à avoir toujours davantage le goût, le désir d'étudier, de méditer, de mémoriser, de vivre selon ta parole, Seigneur. Parle-nous aussi par ces visions, montre-nous comment Dieu est le maître des horloges, de l'univers. Il est le Seigneur des armées angéliques qui représente une puissance incompréhensible à nos esprits humains. Et pourtant, il nous aime et il veut nous encourager. On te demande de bénir les autres assemblées de cette ville qui t'adorent en esprit et en vérité, de les faire grandir, de les encourager. Seigneur, notre prière, c'est que davantage et davantage de Niçois et d'autres, Seigneur, de passage à Nice, soient touchés par ton esprit, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Zacharie 2. Alors, suivant, il y a des versions qui continuent. Il y a un petit décalage des fois avec les versions anglaises de 4 versets, donc soyez pas perdus par ça. Là, c'est le verset 1 du chapitre 2 pour les versions d'influence britannique ou anglaise. C'est le verset 18 du chapitre 1. Il continue avec certains, mais dans notre Bible, on a la Bible second 21, c'est le chapitre 2. J'ai levé les yeux et vu 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que c'est que ces cornes? Et il m'a répondu, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel m'a fait voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Il a répondu, des puissances ont dispersé Juda au point que personne ne redresse la tête Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda, afin de disperser ses habitants. La vision des cornes. On sait que souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la corne est un symbole de puissance. Aujourd'hui encore, en souvenir des Vikings qui avaient des cornes sur leur casque, on voit des fois des motards sur des grosses Harley Davidson qui ont des cornes sur leur casque. Et on a parlé des deux anges qui sont là, il y a l'ange de l'Éternel, et puis il y a un autre ange qui est comme un ange qui fait le traducteur. Là, il y a quelqu'un qui est en train de traduire en anglais. Il semble que Zacharie soit moins intimidé par le traducteur que par l'ange de l'Éternel. Donc, il lui dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces cornes? Et là, il répond, ce sont les puissances qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. On n'est pas exactement sûr des pays qui sont ainsi désignés. Donc apparemment, il y a quatre pays, quatre puissances que Dieu a utilisées pour faire peur ou pour corriger, pour reprendre Israël, Juda, Jérusalem. Et certains disent quatre cornes. Qu'est-ce qu'il y a comme choses qui ont quatre choses? Ah, les points cardinaux, le nord, l'est, le sud, l'ouest. Alors ça veut peut-être dire qu'ils viennent des quatre coins et que c'est une façon de dire que Jérusalem est entourée d'ennemis. Mais je crois que c'est plus précis que ça. On sait qu'historiquement, déjà à l'époque de Zacharie, il y avait eu la domination des Assyriens, l'Égypte avait attaqué aussi Israël, il y avait eu Babylone, et puis Babylone avait été remplacée par les Perses, les Mèdes et les Perses, les Médo-Perses. Alors, à l'époque, ils pouvaient parler de ça, et les gens seraient dit, ah oui, il y a eu quatre puissances qui nous ont fait beaucoup de tort, mais j'oublie pas que Zacharie était un prophète. Et que quand on lit le prophète Daniel, les quatre grandes puissances qui ont agi sur le peuple de Dieu, c'est Babylone, c'est la statue de Daniel dans Daniel 2, c'est Nabuchodonosor, c'était Babylone, c'était la tête d'or, après il y avait le torse d'argent, c'était les Médos et les Perses, les Médo-Perses. Après, il y avait les jambes, c'était la Grèce. L'empire d'Alexandre a aussi attaqué, était une grande puissance qui a contribué à la dispersion de Jérusalem et du peuple de Dieu, même si, parce qu'il avait entendu parler de lui dans la Bible, il n'a pas ravagé Israël. Et puis la dernière grande puissance, c'était l'Empire romain. Donc on pense qu'en fait, c'est peut-être ces grandes puissances dont il est question prophétiquement, Babylone, les Perses, la Grèce et Rome. Et quand on va l'Évangile selon Daniel, le prophète Daniel, qui est un des grands prophètes, par non seulement l'importance de ce qu'il dit, mais aussi par le volume. On voit ce rêve de Nabuchodonosor et l'interprétation qui en est donnée par Daniel. Et on a ces quatre royaumes ou empires, grands empires sur la terre, terrestre. Il n'est pas question des États-Unis ou de la Chine. Par contre, la statue qui est renversée par un rocher qui lui tombe dessus. On sait que ce rocher dans Daniel, c'est Christ lui-même, le roc des âges, et qu'en fait il y a les pieds de cette statue sont un mélange de fer et d'argile, de force et de faiblesse, et on pense que c'est suivant les événements géopolitiques, certains pensent que c'est l'Europe, et que c'est de l'Europe que va sortir un antichrist qui va être l'antichrist dont il est question dans l'Apocalypse. On y reviendra. Mais sachez donc qu'il y a cette statue, et on pense que ces quatre cornes, ce sont ces quatre puissances. Et on voit ensuite que l'Éternel fait voir à Zacharie, et l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel ici, donc c'est Jésus-Christ est aussi Dieu comme le Père. J'ai dit, que vient-il faire ? Il lui fait voir quatre forgerons. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre la puissance des nations qui se sont levées contre le pays de Juda afin de disperser ses habitants. Lorsqu'on étudie l'histoire biblique, notamment lorsqu'on approfondit le livre de Daniel, on voit que chacun de ces grands empires a renversé la puissance de l'empire précédent pour prendre sa suite. Donc ces forgerons ou ces artisans, c'est un mot qui désigne quelqu'un qui a une puissance d'intervention physique, elles se sont remplacées les unes les autres. Les Perses ont renversé les Babyloniens, la Grèce a renversé avec l'empereur Alexandre a renversé les Perses, et finalement Rome a renversé la Grèce, et puis finalement Jésus-Christ va venir renverser tout ça. Jésus-Christ va venir reprendre le contrôle de l'humanité, et on va revoir ça au fur et à mesure qu'on étudie. Cette vision, elle nous enseigne des choses, elle nous montre que le peuple de Dieu à l'époque et le peuple de Dieu aujourd'hui, qui regroupe les juifs et les non-juifs qui se sont tournés vers Christ, le peuple de Dieu doit s'attendre à des épreuves et à de l'opposition. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'on aime entendre, mais la vie chrétienne, c'est un combat permanent. On aimerait qu'on puisse se reposer, tranquillou, Dieu m'a sauvé, tout est beau, et beaucoup de choses sont belles, mais il y a un ennemi extérieur, on va en parler au chapitre 3, qui s'appelle Satan, ça veut dire l'adversaire, et c'est notre ennemi du dehors. Dans Éphésiens, Paul, au chapitre 6, disait que nous devions nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, mais qu'on devait se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin ou du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Puis il nous invite à faire des prières, toutes sortes de prières par l'esprit et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. On est dans un combat. on est comme des soldats. On peut avoir des petits moments de répit, mais pas trop longtemps. Parce que l'ennemi, lui, il ne prend pas de vacances. Il ne relâche pas sa pression. Cet ennemi, il est extérieur, donc on a des circonstances qui nous tombent dessus, on se demande d'où ça vient. Mais il y a aussi d'autres ennemis, et Satan est le prince de ce monde. Pas de la planète Terre physiquement, géographiquement, mais du système de valeurs qui mène le monde. Aujourd'hui, les médias reflètent ce système de valeurs. Aujourd'hui, les gens autour de nous, pour la plupart, vivent selon ce système de valeurs. Qui fait de l'argent un roi, qui fait de la recherche des plaisirs une idole, que toutes ces choses comptent bien beaucoup plus que de lire et d'avenir parler d'un Dieu qu'on ne voit pas. Et c'est ce système de valeurs qui attire, qui résonne avec notre vieille nature. Notre vieille nature qui est égoïste, qui recherche le plaisir en dépit de ce que ça peut coûter aux autres, c'est la réalité du monde. Il suffit de voir les journaux, il suffit de voir les médias, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde pour dire que c'est la seule explication de ce qui se passe dans le monde. Toutes les ismes et les philosophies de droite et de gauche n'arrive pas à expliquer le monde tel qu'il est. Seul le christianisme, en disant qu'il y a un ennemi de Dieu qui veut entraîner le plus grand nombre d'hommes à sa suite, loin de Dieu, parce qu'il s'est rebellé par orgueil, cet homme utilise le monde pour nous faire tomber avec notre vieille nature. Pierre, dans 1 Pierre 2, 11, nous invitait à nous abstenir des désirs de notre vieille nature, de notre propre nature, qui font la guerre à l'âme. C'est encore une fois, c'est pas... Si vous veniez ici pour passer une journée tranquille, je suis désolé de vous dire, en fait, c'est pas tranquille. Il y a un combat. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que si on est en Christ, on combat d'une position de victoire. On connaît la fin de l'histoire. Mais en attendant, on doit s'attendre à des épreuves et à de l'opposition. On ne doit pas être tout surpris quand il nous arrive de mauvaises choses. Il y a quelqu'un qui veut nous séparer de Dieu, et il réussit lorsque, devant ces mauvaises choses qui nous arrivent, on dit si Dieu existait, ça ne se passerait pas, ça ne m'arriverait pas. Donc, conclusion, Dieu ne m'aime pas, ou Dieu n'existe pas, tout simplement. Et on peut rejeter la foi quand on fait face aux épreuves. Les épreuves peuvent nous rendre amers, ou elles peuvent nous rendre plus forts si on fait confiance à Dieu. Cette vision nous montre que Dieu va défendre son peuple, qu'il va punir les méchants dans son temps. Il va finir par gagner. Pourquoi est-ce que Dieu permet cette opposition des fois féroce contre son peuple, contre ses enfants? Les 70 ans de captivité à Babylone nous montrent que des fois c'est pour punir son peuple de sa mondanité, de son infidélité, du fait qu'on sait qu'il est là, mais on vit comme s'il n'était pas là. Et il veut nous ramener à lui en nous laissant faire l'expérience de conditions difficiles où on se dit « Mais finalement, on a bien mérité tout ce qui nous est arrivé, on avait rejeté Dieu. » Et aussi une autre raison qu'on peut estimer valable, c'est pour nous montrer qu'on ne peut pas arriver à gagner le combat par nos propres forces. On peut prendre toutes les résolutions qu'on veut, les livres d'aide personnelle, les ressources de la psychologie, de la psychiatrie, etc. Il y a des choses dont on s'aperçoit qu'on ne peut pas y arriver. Il y a des esclavages, il y a des addictions. On n'y arrive pas par nos décisions, par nos résolutions. Et là, on se dit, il faut que je compte sur Dieu. Il faut que je vienne à Christ. Il faut que je pense à lui quand je suis tenté. Il faut. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, des fois, on est confronté à ces choses difficiles. C'est pour réaliser qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de lui. Et puis, cette opposition, ces problèmes, ce combat, ça nous entraîne, ça nous développe un caractère qui est plaisant à Dieu. Ça développe la persistance, ça développe la foi, la confiance. Mais la même épreuve peut vous éloigner de Dieu ou vous rapprocher de Dieu. Si par la foi vous dites, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu m'aimes. Je ne le vois pas en ce moment, mais je te fais confiance. Je sais que tu vas m'aider. À ce moment-là, vous avez la victoire qui va arriver. En son temps. Des fois, on voudrait que ce soit instantané. Des fois, on voudrait que ce soit la machine à sous. Je mets ma pièce et le Kit Kat où les bonbons tombent dans le distributeur et j'ai plus qu'à prendre. Il y a aussi des fois où la pièce se bloque et là, on tape sur la machine. Là, c'est l'impression, c'est un peu lorsqu'on tape sur Dieu parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Alors, je ne crois plus à Dieu, non. Non. Vision des cornes et des forgerons. On va regarder la vision suivante qui est intitulée ici la vision d'un ruban à mesurer. Donc tout ça, ce sont des visions que Dieu donne à Zacharie pour encourager son peuple à l'époque et pour nous encourager aujourd'hui à persévérer, à pas perdre pied lorsqu'on est confronté à des difficultés, même des difficultés terribles. Et encore une fois, je veux vous rappeler que quand je vous parle, j'essaye d'expliquer la parole, mais ça ne veut pas dire que j'ai maîtrisé tout ça moi-même et que je n'ai pas des moments où je doute de l'amour de Dieu par mon expérience. Mais encore une fois, c'est de s'accrocher à ce qu'on sait, être vrai. Dieu m'aime, il me l'a prouvé une fois pour toutes à la croix. Si j'avais été le seul être humain à exister sur cette planète, ce serait un peu seul. Imaginez, non ? Être tout seul, Dieu serait mort pour mes péchés. Dieu même au point qu'il aurait envoyé son Fils unique mourir pour moi. Dieu vous aime, n'en doutez jamais. On priait avec le pasteur Craig après le culte dimanche dernier et j'étais touché par sa réaction. Il a sangloté en priant qu'on comprenne qu'on est aimé par Dieu. Et il le faisait comme si il était Dieu et qu'il était conscient de l'amour qu'il a pour tous et que là on est à douter de son amour. Et Craig ne doute jamais que Dieu l'aime. Parce qu'il a grandi en étudiant la parole, en vivant, en faisant confiance à Dieu. Je suis impressionné par son énergie, par ses projets. Il y a quelques années, on ne savait pas si on allait le revoir l'été prochain parce qu'il était gravement... Il a une leucémie, une maladie de Hodgkin numéro... un stage 4, quelque chose de très avancé. Pendant des mois, il a dû être alité, il ne pouvait pas respirer, il avait des problèmes de plèvres pulmonaires. Des choses, rien que d'en parler, je panique. Et lui, par la foi, sachant que Dieu l'aime... Il continue, il s'est lancé dans ce projet incroyable d'acquisition d'un ancien building industriel pour le transformer en église, en école biblique, en logement pour les étudiants. Il m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai dit écoute, si le Seigneur te le met sur le cœur, c'est pas une idée à toi parce que dans tes conditions, je sais que tu le ferais pas. Mais c'est d'être persuadé de cet amour. J'ai levé les yeux, verset 5 du chapitre 2, j'ai levé les yeux et vu un homme qui tenait dans la main un ruban à mesurer. J'ai dit, où vas-tu ? Il m'a répondu, je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Alors l'ange qui me parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné, cours dire à ce jeune homme, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez du pays du Nord, déclare l'Éternel, car je vous avais dispersé aux quatre coins de l'horizon, déclare l'Éternel. Allons, sauve-toi, Sion, toi qui habites à Babylone, car voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Me voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui étaient leurs esclaves, et vous saurez que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé et sort de sa demeure sainte. Là aussi, de quoi est-ce qu'il s'agit ? J'ai levé les yeux. C'est une façon hébraïque de dire « j'ai regardé ». Simplement, ça pourrait être traduit plus naturellement, j'ai regardé et j'ai vu un homme qui ne tenait dans la main un ruban à mesurer. Ils n'avaient pas encore les rubans rétractables, boum, où on se fait mal aux doigts, mais ils avaient une corde, un ruban, et ils pouvaient mesurer. Et il demande à cette personne, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir sa largeur et sa longueur. Jérusalem était en ruine à l'époque. Pas facile de mesurer des gravats, la longueur, etc. Mais et l'idée, c'était de mesurer pour faire des travaux. Quand on mesure, généralement, c'est que on peut être maître d'œuvre, c'est-à-dire que la propriété qu'on mesure nous appartient, ou si on fait des travaux, si j'arrive chez vous, que je commence à mesurer votre salon en disant, tiens, on va couper là, on va... Si vous m'en avez parlé, vous m'avez demandé de le faire, c'est une chose, mais si j'arrive comme ça et vous dites, mais c'est pas toi qui habite ici, c'est pas à toi, qu'est-ce que tu fais ? Donc le fait que quelqu'un mesure, c'est un signe de possession aussi. Et on pense que cette personne, alors là c'est un peu incertain, c'est que c'est l'ange de l'Éternel qui fait ça. Il y a un autre ange qui vient à sa rencontre, il y a l'ange qui lui parlait, l'ange traducteur, c'est l'expression qui est reprise plusieurs fois, l'ange qui me parlait, c'est l'ange non intimidant à qui explique un peu ce qui se passe. Et il dit, va dire à ce jeune homme, il parle de Zacharie, qui on pense avait une vingtaine, entre 20 et 30 ans, c'est pas la peine de se soucier de la taille de Jérusalem. L'idée, c'était qu'il fallait mesurer pour agrandir Jérusalem. Parce que dans les temps futurs, le peuple allait revenir et toutes les nations de la terre vont venir se réunir à Jérusalem parce que Dieu va être là. Ça, c'est prophétique dans la fin des temps aussi. ce sera une ville ouverte. Il n'y aura pas besoin de reconstruire un mur à cause du grand nombre d'hommes et de bêtes qui y vivront. Et en plus, il ajoute, moi, je serai une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel, l'Éternel, Dieu le Fils. Je vais protéger toute la grande ville, la ville immense de Jérusalem. Il y a des villes qui sont très grandes. Je me souviens la première fois où j'ai survolé Los Angeles en avion. On voit des constructions à perte de vue et ça dure des minutes, des dizaines de minutes, presque une heure où on survole et c'est toujours la même ville. Là, c'est un peu cette idée que ça va être une ville énorme et qu'il n'y aura pas besoin de murailles pour protéger. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de murailles qui entourent Israël. Il y en a dans la vieille ville et c'est dans la ville historique, c'est des endroits qu'on aime voir et retrouver dans la parole de Dieu. Mais la guerre moderne fait qu'une muraille, ça ne sert à rien, quoi. On passe par-dessus en avion, on laisse, ou maintenant en drone, ou en ce que vous voulez. Mais Dieu, par l'ange de l'Éternel, Christ nous dit qu'il va être une muraille de feu. Il va protéger... Il va protéger, donc ces cinq premiers versets, je serai pour moi-même, pour elle, une muraille de feu, je serai sa gloire au milieu d'elle. Vous vous souvenez peut-être que la gloire de Dieu était partie du temple à cause du péché du peuple. Ichabod, la gloire est partie. C'est dans Ézéchiel 10, 18 ou au chapitre 11 qu'on en parle. On peut regarder rapidement. 10, 11, 22. Les chérubins ont déployé leurs ailes accompagnés des roues et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Ensuite, l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté en Babylonie vers les exilés dans la même vision. Et par l'Esprit de Dieu. La vision que j'avais eue alors a disparu au-dessus de moi et j'ai rapporté aux exilés tout ce que l'Éternel m'avait révélé. Et donc c'était la gloire de Dieu qui s'en allait d'Israël. C'était quelque chose de terrible. Aujourd'hui, une chose aussi terrible, c'est si jamais l'Esprit de Dieu quitte une église. Et ce qui est plus terrible, c'est qu'il y a des églises. J'espère qu'on n'est pas de celle-là. L'Esprit de Dieu pourrait s'en aller, on ne remarquerait même pas la différence. On continuerait à avoir plein d'activités, plein de récoltes de fonds pour des projets, etc. Mais là, Dieu promet que la gloire de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel, qui des fois est appelé l'Éternel, parce que, encore une fois, ça parle de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je serai moi-même une muraille de feu et je serai sa gloire au milieu d'elle. Protection assurée de Dieu. Nous n'avons rien à craindre de nos ennemis. Et ça, c'est quelque chose qu'on accepte quand on est en sécurité, lorsqu'on est prêt de perdre sa vie aux mains de terroristes. Anti-chrétien, ça peut être une histoire différente. Et là, je ne préjuge pas de ma réaction. Je prie simplement qu'en ce moment-là, Dieu me donnera la capacité de lui être fidèle et de voir les choses avec ses yeux. Il s'ensuit, donc la vision est présentée, c'est versets 5 à 9. Et puis après, c'est une application jusqu'au verset 17, avec trois commandements, trois impératifs. Allons, fuyez du pays du nord, déclare l'Éternel, car je vous avais dispersé aux quatre coins de l'horizon, déclare l'Éternel. Allons, sauve-toi, Sion, toi qui habites à Babylone. Il leur dit, partez de Babylone. Si vous y êtes encore, vous devriez être partis. n'avaient rien à faire à rester dans le confort, dans la recherche du luxe, du bien-être. Si vous êtes vraiment spirituel, si vous, vous appartenez vraiment à Dieu, vous voulez être là où il est. Et sauf toi, Sion, toi qui habites à Babylone, c'était encore une fois les Juifs qui étaient restés. Et ce qui est intéressant, c'est que Babylone, on le voit dans l'Apocalypse, Babylone, les chapitres 18 et 19 parlent de la Babylone qui est le système mondial qui recherche l'argent, qui recherche le business, qui s'oppose en quelque sorte à Jérusalem. Babylone, c'est le domaine du matérialisme. Jérusalem, c'est le domaine de l'esprit. C'est la ville de l'esprit, ça représente l'esprit. Savoir si l'apôtre Jean nous disait dans 1 Jean 2,15, ce verset bien connu, qui doit nous parler, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Encore une fois, c'est le système de valeurs, loin de Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, et là il décrit un peu, la convoitise qui est dans l'homme, on voit quelque chose, on le veut. C'est un des ressorts de la publicité. C'est pour ça qu'on vous passe des pubs à la télé. Si on voit, waouh, on veut. D'abord, elle est dans le cœur de l'homme, elle est aussi la convoitise des yeux, donc c'est celle qui s'exerce par ce qu'on voit. Et puis, il y a l'orgueil des hommes qui est dû aux richesses. Souvent, l'homme riche, ou quand on devient un peu plus riche, on se sent plus fort parce qu'on pense avoir des ressources qui nous mettent au-dessus des autres, qui nous garantissent une assurance contre les coups durs. Mais en fait, tout ça, il dit, ça vient non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe. Les choses matérielles, qui peuvent être bonnes, qui peuvent être nécessaires, mais si on en fait des idoles, on s'aperçoit qu'en fait, ça a passé. Et celui qui fait la volonté de Dieu, lui par contre, il demeure éternellement. Très belle illustration du contraste entre Babylone d'une part et on dirait Jérusalem de l'autre part. Donc il leur dit, partez, et il dit, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. En anglais, on parle de la pomme de son œil. Là, on parle de petite prune. Mais on sait ce que ça veut dire. C'est l'iris. C'est la partie qui laisse entrer la lumière dans nos globes oculaires pour qu'on voit des images qui, par un miracle de technologie biologique de Dieu, fait qu'on voit des images. C'est prodigieux. L'évolution ne peut pas expliquer la vue. Ils se cognaient pendant des millions d'années, puis finalement ils ont appris à... si vous voulez créer une caméra, la caméra qui est dans mon portable, elle ne s'est pas faite toute seule. Il y a eu beaucoup d'intelligence et d'organisation derrière pour qu'elle marche. Et donc, la prunelle de l'œil... C'est quelque chose, c'est la partie la plus sensible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, maintenant je crois qu'ils font différemment, mais quand vous allez chez l'ophtalmologiste, à mon époque on disait l'oculiste, celui qui s'occupait de votre œil, pour voir si vous n'avez pas un glaucome, c'est une maladie qui se détecte par la pression du globe oculaire, vous êtes assis dans le noir, et il y a quelqu'un, des fois on peut sentir son haleine, qui est juste en face de vous, il y a une lumière qui vous éblouit, et puis, il y a maintenant une lumière bleue qui arrive, et pof, oh, ça vous touche, pour mesurer la pression. Et on est hypersensible de la prunelle de nos yeux, de l'iris. Et là, la parole de Dieu nous explique que Dieu est aussi sensible à ce qui se passe à ses enfants. si on vous fait du mal, c'est comme si on fait du mal à la on touche la prunelle de ses yeux. Si vous faites du mal à quelqu'un, un frère ou à n'importe qui, c'est comme si vous mettez le doigt dans l'œil de Dieu. Et Dieu réagit. Comme nous, on le fait. Et là, il dit, je lève ma main contre elle. Vous allez donner un coup de poing, c'est une façon biblique de dire, je lève la main contre elle. Et ces nations qui ont été trop loin dans leur... Dieu avait choisi d'utiliser les nations, mais ils ont été trop loin dans leur maltraitance du peuple de Dieu. Vous étiez leurs esclaves, maintenant ils vont être la proie des esclaves. Et vous saurez que c'est bien Dieu le Père qui m'a envoyé quand vous verrez ces choses-là. Un deuxième ordre au chapitre, je mets les deux, fuyez et sauve-toi en même temps. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là et deviendront mon peuple. Les Français deviendront le peuple de Dieu. Les Corses deviendront le peuple de Dieu. Les Bretons, les Alsaciens. Comme si c'était des nations différentes. Non, j'extrapole. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers toi. Encore une fois, toutes ces prophéties vont se réaliser et pour ceux qui doutaient, ils vont dire, mais comment est-ce que j'ai pu douter ou avoir le moindre doute ? L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la Terre Sainte et il choisira encore Jérusalem. Ça fait référence déjà à la reconstruction de Jérusalem qui allait intervenir dans quelques années, mais aussi à la fin des temps, dans ce qui est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 18, versets 20 et suivants. C'est la promesse que Dieu va être fidèle et que Jérusalem, ce n'est pas une ville comme une autre, c'est la demeure de Dieu, c'est la ville que Dieu s'est choisie. C'est pour ça que c'est toujours quelque chose de très impressionnant, de très émouvant, que d'aller à Jérusalem. Il y a même des personnes qui sont tellement impressionnées, émues, qu'elles perdent un peu les pédales. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem, ou le syndrome de fait de voir enfin un endroit dont on a entendu parler, un endroit dont on est conscient de l'importance, et on n'arrive plus à dormir, on a des comportements psychologiques un peu bizarres. J'ai connu un très bon ami, très proche, qui était en voyage avec son fils, un voyage organisé, et il était tellement ému, touché par le fait d'être dans cette ville, qui est la ville où Dieu va revenir, qui va être la ville où Dieu va habiter pendant le millénium, pendant les 1000 ans du règne de Jésus sur la terre, que la nuit, il laissait son fils et il partait à pied prier sur le mont des Oliviers. Et la personne qui était responsable du groupe lui a dit, écoute, je crois que là, il faut que on se calme. C'est très bien et c'est formidable, mais ça provoque ce genre de réaction. Et là, on parle des fois d'un voyage en Terre Sainte. C'est ici, Zacharie 2, 16, le seul endroit de toute la Bible où il est question de la Terre Sainte. On utilise ce terme à toutes les sauces. Maintenant, c'est un voyage en Terre Sainte, il fait un séjour là-bas, en Terre Sainte. Et la Terre est sainte, non pas parce qu'elle est spéciale en elle-même, mais elle est sainte lorsque l'Éternel est là, lorsque le Saint des Saints est présent. Et là, il a un autre ordre qui nous donne la dimension de cette vision, que toute créature fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé et sort de sa demeure sainte. Devant la splendeur de Dieu dans cette ville restaurée qu'il avait promise, qui était, encore une fois, il parle à des gens qui sont soit à Babylone, soit qui sont devant des tas de débris, comment on dit, des, des ruines, des sacs à, de gravats. Et il leur dit, non, par la foi, voyez ce qui va se passer. Et des fois, la meilleure façon d'adorer Dieu, de répondre à sa présence, nous on a tendance, c'est de faire silence. Aujourd'hui, on a le droit sacro-saint du droit à la parole. Chacun défend son droit à la parole. Là, on va avoir droit au silence devant Dieu. Et on va pouvoir admirer ce Dieu qui nous aime, qui se rappelle de son peuple et le bénit au moment voulu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces visions que tu as confiées à Zacharie. Merci pour la fidélité qu'il a eue de les noter et de... Merci pour la préservation de ta parole qui nous permet de les considérer et de recevoir ces messages d'encouragement. Voir que tu es un Dieu non seulement présent, qui prie, qui promet, mais un Dieu qui venge, qui souffre quand tes enfants souffrent, et que nous pouvons te faire confiance. Tu vas remettre les choses en place, tu vas ramener tes bénédictions, tes promesses vont se réaliser, Seigneur. Aide-nous à être toujours davantage convaincus de ce que nous pouvons te faire entièrement confiance. Pardonne-nous lorsque nous doutons, lorsque nous décidons que si nous avons des difficultés, c'est une preuve de ton manque d'amour envers nous. Ne nous laisse jamais douter de cet amour, Seigneur. Nous prions ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.